Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angléco.
Bonjour à tous, c'est Catherine Mangin. Chaque semaine, je dialogue avec François sur les mutations, les évolutions qui résultent de la crise du coronavirus afin de mieux comprendre comment l'économie s'adapte au fil de la pandémie. L'offre d'achat du Canadien Couche-Tard sur Carrefour a pointé les projecteurs sur une grande distribution française qui n'est vraiment pas très en forme, François.
Oui, en effet, quel retournement. Il y a pas si longtemps, disons, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, c'était Carrefour qui rachetait tout en France, en fusionnant avec des enseignes existantes, mais aussi à l'étranger, au point que l'entreprise était vraiment un cheveu de devenir le numéro un mondial, tout près de Walmart, son concurrent américain. Et à l'époque, elle avait une valeur boursière au zénith. Et puis voilà que le racheteur est devenu racheté potentiel, puisque l'opération ne va pas se faire, mais il était visé par un groupe qui est deux fois plus petit sur le plan du chiffre d'affaires et qui pourtant est deux fois mieux valorisé en bourse, c'est-à-dire qu'il vaut deux fois plus en bourse parce qu'il est beaucoup plus rentable. Donc c'est vraiment une sorte d'humiliation en quelque sorte. Dans le même temps, Auchan, qui est l'autre grand de la distribution en France, est en difficulté. Il y a eu deux plans sociaux consécutifs avec des suppressions d'emplois. Et puis Casino, le troisième larron, sort lui d'une vraie crise financière. Il était à deux doigts de la faillite. Hein. Il a dû se mettre d'ailleurs sous la protection de la justice à un moment pour faire face à des créanciers qu'il ne pouvait pas honorer. Il était aussi, il faut le dire, sous le feu d'attaques spéculatives à la bourse à cause d'acrobaties financières qui avaient été faites dans les années précédentes.
C'est un vrai changement d'époque, François, puisque la grande distribution, c'était quand même un des secteurs d'excellence de l'économie française.
C'est vrai, et particulièrement dans les 30 Glorieuses, c'est vrai qu'on a vu toute une série de familles françaises, familles d'entrepreneurs, qui se sont lancées dans le développement de la grande distribution. C'était les familles Allais, De Forêt, Mullier, souvent des familles du Nord, d'ailleurs Leclerc, qui lui n'est pas du Nord mais breton, Édouard Leclerc bien sûr, le père, qui dans les années 50 ont importé ces concepts des États-Unis, parce qu'en réalité ils avaient été expérimentés avant la guerre aux États-Unis et les ont transposés en France. Le premier hypermarché Carrefour, c'est 1963, et c'était en région parisienne. Finalement, il y a en France une espèce de tradition en matière de commerce, de grande distribution, parce que la génération encore d'avant, à la fin du 19e siècle, avait été aussi assez inventive, assez productive, avec presque l'invention des grands magasins. Hein. C'était le Bon Marché, les Galeries Lafayette, le Printemps. Donc la France a toujours été assez douée pour le grand commerce. Et Carrefour, d'un certain côté, était l'héritier de cette tradition, en lançant sa conquête mondiale. Il faut se souvenir que Carrefour est aussi l'entreprise qui a importé, ou plutôt exporté, vu de chez nous, les supermarchés en Chine. Les premiers supermarchés chinois, ils étaient fait par Carrefour, là aussi, vraiment contraste absolu avec la période actuelle, puisque le groupe a dû céder son activité chinoise cette année, tout comme Auchan, hein, parce que ils étaient dominés, écrasés par les grands distributeurs chinois qui leur faisaient beaucoup d'ombre.
Mais alors comment un si beau modèle a pu s'écrouler et finalement aussi rapidement ?
Il y a eu plusieurs facteurs. Le premier, qui est structurel, c'est la difficulté croissante des hypermarchés. C'est un format qui était très important pour Carrefour et encore davantage pour Auchan, qui avait construit sa croissance là-dessus pendant les 30 Glorieuses. Finalement, ces entreprises ont accompagné la naissance et le développement de la société de consommation française, et l'hypermarché en a été vraiment un des attributs les plus importants. En fait, c'est un format qui est en pleine désaffection. Alors, en 2020, bien sûr, à cause du risque de contamination, les clients se disent « Oh là, dans un endroit de plus de 5000 m², j'ai quand même plus de chances de rencontrer beaucoup de monde, donc de me faire contaminer. » Mais en réalité, la crise sanitaire, une fois de plus, n'a fait qu'accélérer quelque chose qui avait débuté avant. Le déclin des hyper commence en 2015. Et en 2018, par exemple, il y a deux ans, le chiffre d'affaires réalisé au mètre carré en hyper était déjà en recul de près de 3%. Donc c'est tout à fait substantiel. En réalité, quand on regarde dans le détail, c'est la chute du 9%. alimentaire en hyper qui a pénalisé ce format de magasin, elle est de 30% environ, donc c'est considérable, et elle s'explique par l'essor d'Internet. Pour tous ces produits, l'électroménager, l'hi-fi, la téléphonie, on a vu des acteurs spécialisés qui ont pris leur essor sur Internet et qui ont mangé littéralement la part de marché des hyper. Autant dans l'alimentaire, ils ont résisté parce que il y a quand même une certaine réticence à acheter son alimentaire à distance, en ligne. Ça change, hein, parce que de plus en plus la confiance est là. Mais dans les années récentes, et particulièrement en France, les clients étaient encore assez rétifs. Mais pour le non alimentaire, en revanche, ça a été spectaculaire. L'autre révolution, et que bon nombre d'acteurs de la grande distribution français ont raté, c'est la montée en puissance du drive, qui est à mi-chemin entre le physique et le digital, puisqu'on prépare sa commande sur Internet et on vient la chercher en voiture. Ça évite d'avoir justement à circuler dans les allées et puis de se taper l'errance dans les rayons et le cas échéant la queue à la caisse. Donc ça aussi, ça a été accéléré par l'épidémie. Hein. Cette année, en 2020, le drive est en hausse de 40% en France. C'est considérable. Et bon nombre de nos auditeurs ont dû faire l'expérience de vouloir acheter en drive et de ne pas y parvenir parce que les créneaux n'étaient pas assez nombreux. Les magasins comme Auchan et Carrefour ont eu beaucoup de retard à l'allumage. Ils n'ont pas fait ce choix-là il y a quelques années, contrairement à Leclerc, qui l'a fait dès le début et qui profite aujourd'hui de son avance. Il réalise près de la moitié du chiffre d'affaires national fait sur le drive. Ça représente près de 5 milliards d'euros en 2020, c'est considérable.
Oui, c'est vraiment étonnant. Et certains ont même inventé, hein, dans la foulée du drive en voiture, le drive piéton. Il y a certains magasins, on peut même aller chercher ses courses à pied. Hein. Mais donc, vous le dites, c'est Leclerc le grand gagnant de toute cette période, finalement.
Il a pris les bons virages au bon moment, c'est-à-dire avant les autres. C'est spectaculaire. Hein. Et du coup, le résultat, tout en gardant sa logique fondamentale qui est le prix bas. Souvenez-vous, Carrefour, il y a 10 ans, disait on abandonne la course au prix. Ça lui a coûté extrêmement cher parce que finalement, les clients ne se sont pas laissés avoir. Ils ont déserté en partie Carrefour. Alors depuis, Carrefour est sur la voie du redressement, hein, mais il y a l'effet accumulé de ces retards. Et aujourd'hui, c'est Leclerc le leader, avec 22% de part de marché en France, et puis donc une avance considérable sur le drive. Mais quand on regarde l'année 2020, on voit que d'autres acteurs ont profité en tendance encore davantage, même si leur base était plus faible. C'est Intermarché, le grand gagnant. C'est l'allemand Lidl, le spécialiste du hard discount, et puis Système U. Et avec Leclerc, ces trois-là constituent vraiment le quatuor qui a le plus profité de l'épidémie. On sait que la consommation des Français s'est portée beaucoup sur l'alimentaire, parce que justement, les restaurants étaient fermés, les cantines étaient fermées, donc on a fait la popote soi-même, et pour ça, il fallait évidemment s'approvisionner dans les rayons. Et ce sont ces quatre-là qui en ont le plus profité. Derrière ça, justement, ces différences de fortune, on peut penser que le paysage capitalistique de la distribution va continuer à se redessiner. Il y a eu cette OPA amicale qui n'a pas encore abouti, hein, du Canadien Couche-Tard sur Carrefour que vous évoquiez à l'instant. On a vu aussi Casino surendetté, contraint de céder un certain nombre de ses actifs, et en particulier les Leader Price français qui ont été vendus il y a peu à l'allemand Aldi, quelques 700 millions d'euros, donc ça faisait beaucoup d'argent dont avait besoin Casino justement pour se désendetter parce qu'il est passé tout près de la faillite. Il veut se recentrer notamment sur les deux pépites, hein, Franprix, Monoprix. Alors pour le coup, ça, ce sont des magasins chers qui vendent en gros 15% plus cher que chez un Leclerc, mais qui sont des magasins des centres-villes aisés. C'est le haut de gamme. Il y a aussi un service qui est différent. Il y a un type de produit qui est différent. Carrefour, de son côté, poursuit son redressement. D'ailleurs, il n'a pas abandonné ses projets d'expansion. Il a racheté tout récemment la chaîne de magasins Bio C'est Bon, qui était en difficulté pour des raisons de problèmes de gestion, parce que Carrefour considère que le bio et le local, ce sont des segments qui représentent en valeur absolue assez peu en proportion aujourd'hui, mais qui connaissent une très forte croissance parce que les consommateurs veulent de l'alimentation bio et ils veulent de l'alimentation produite localement. Donc il investit sur ces segments-là pour retrouver les routes de la croissance. Et puis on peut penser qu'il va quand même enclencher des coopérations avec le Canadien Couche-Tard. Certains vont même jusqu'à évoquer un rapprochement capitalistique, mais qui n'interviendrait que après l'élection présidentielle, parce que dans le nom qu'a formulé le gouvernement devant ce projet de mariage, il y avait évidemment des considérations politiques. Le gouvernement ne voulait pas que le premier employeur privé français passe sous pavillon étranger avant une élection aussi importante que la présidentielle de 2022. Une fois qu'elle sera passée, on peut penser que cette contrainte politique pèsera beaucoup moins lourd.
Alors, si on élargit un petit peu la focale, est-ce qu'il y a un exemple de distributeur traditionnel qui a réussi à traverser toutes les révolutions du secteur que l'on vient d'évoquer ?
En France, c'est clairement Leclerc, on l'a dit. Si justement on élargit, l'exemple qui est spectaculaire, c'est l'exemple de Walmart, qui est la chaîne de supermarchés américaine, 5000 magasins, hein, donc c'est vraiment un très très gros mastodonte, il est le numéro un mondial, c'est le Carrefour des États-Unis. C'est d'ailleurs assez curieux parce que il a été fondé par Sam Walton dans l'Arkansas, donc c'est vraiment en fin fond des États-Unis, à Bentonsville, et il a été fondé exactement au même moment que Carrefour, c'est-à-dire au tout début des années 60. Quand on regarde son parcours boursier depuis 2014, depuis 5 ans, son cours a été multiplié par 2,5. Dans le même temps, Carrefour a perdu 40% sur la même période, c'est-à-dire sur les 5 dernières années. Casino lui a perdu 25%. Auchan et Leclerc, on ne connaît pas leur évolution parce qu'ils ne sont pas cotés, mais on peut penser que Auchan, s'il avait été coté à la bourse, aurait affiché justement une performance en baisse. Ce Walmart, bien sûr, il a été aidé par le fait que les États-Unis constituent un territoire beaucoup plus important que le territoire de la France par rapport à Carrefour, mais aussi, et c'est spectaculaire, par une véritable poussée dans le numérique tout à fait inhabituelle pour un acteur de brick and mortar, comme on dit, c'est-à-dire de magasins physiques. La semaine dernière, il annonçait par exemple la création d'un système de paiement et d'une banque dématérialisée comparable à celle du géant du e-commerce chinois Alibaba. Et il s'associe pour ça avec ce qu'on appelle la fintech, hein, c'est-à-dire des startups qui ont l'expertise pour pouvoir concevoir une finance intégralement dématérialisée. Et sur Internet, il a fait exactement la même chose qu'Amazon, c'est-à-dire il a monté ce qu'on appelle une marketplace, c'est-à-dire un endroit, un site, qui met en relation ses propres clients avec d'autres vendeurs, d'innombrables vendeurs, petits ou gros, qui proposent leur production. Et ça lui permet de mettre en ligne 75 millions d'objets différents, donc de constituer là aussi une offre commerciale qui est absolument imbattable. Encore une initiative tout à fait étonnante vue de chez nous, il a pris une participation dans le réseau social TikTok. TikTok, c'est un réseau social pour les très jeunes, hein, c'est plutôt les 15-22 ans, et il veut en faire un nouveau canal de vente, notamment en s'appuyant sur du live streaming avec des influenceurs en direct qui recommandent l'achat de tel ou tel produit de beauté pour les adolescents. Donc vous voyez que rien ne lui fait peur et que en réalité, il se met en face à face, non pas avec ses concurrents de la grande distribution traditionnelle, mais avec les géants de l'e-commerce que sont Amazon aux États-Unis ou Alibaba en Chine. Et c'est ça qui lui permet d'adopter les nouvelles technologies pour développer ses ventes. Et le résultat sur l'année 2020 est spectaculaire avec Home Depot, qui est une autre chaîne de grands magasins américaine, mais qui est un peu l'équivalent de notre Leroy Merlin. C'est Walmart est le grand gagnant de la crise sanitaire. Il a vu ses ventes en ligne progresser de 79% sur l'année, donc un quasi-doublement.
Et est-ce que c'est un modèle qui peut inspirer aujourd'hui les distributeurs français, François ?
Oui, tout à fait. Alors le problème, évidemment, des distributeurs français, c'est que leur fragilité financière ne leur permet pas d'investir beaucoup. C'était en fait le grand avantage du deal proposé par Couche-Tard. Il mettait sur la table 3 milliards d'euros, ce qui aurait permis à Carrefour d'accélérer et dans les filières type bio, mais aussi dans le numérique. Parce qu'aujourd'hui, il manque de moyens pour le faire. Ses actionnaires actuels, les gros actionnaires, ce sont les Galeries Lafayette, qui sont en difficulté compte tenu du fait que les grands magasins magasins sont un peu en déconfiture. Hein. Les clients étrangers qui constituaient une bonne part du chiffre d'affaires ne sont pas là, il n'y a plus de touristes. Et puis de l'autre côté, on a Bernard Arnault, qui est lui aussi un gros actionnaire de Carrefour, qui n'a pas envie d'investir dans une affaire avec laquelle il a déjà perdu beaucoup d'argent. Donc on voit la route, si vous voulez, et de ce point de vue, Walmart la montre de façon très claire. Maintenant, il faut du carburant pour pouvoir l'emprunter et arriver à bon port.
Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL, sur Audio Now et sur toutes vos plateformes préférées.